à plusieurs reprises, Michel cite les textes qui me sont chers, et il y en a un qu'il a cité récemment, et je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas repris et partagé, et j'avais à cœur de vous le lire, et de partager avec vous quelques pensées à ce sujet. C'est dans le livre des Chroniques, au chapitre 4, et à partir du verset 9. Chronique, 1 Chronique 4, verset 9. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jaébeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » C'est une des prières les plus courtes et les plus efficaces qui soient, semble-t-il. Elle se conclut au bout de quelques mots par « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Il y a de nombreuses années de cela, j'avais décidé, avant de partir en vacances, ça remonte au moins 20 ans, de lire pendant mes vacances des passages de l'Écriture ou des livres de l'Écriture que je n'avais pas l'habitude de lire. Et avant de partir, je me suis dit, alors sur lesquels vas-tu t'arrêter ? Et je dois avouer que je le faisais avec un peu de réticence. Je me disais, mais j'irai bien... pendant mes vacances, explorer les passages de l'Écriture ou les livres qui me font tellement de bien, qui m'encouragent ou qui sont stimulants. Et puis la pensée était de lire les deux livres des Chroniques. Jusqu'alors, je les avais lus, mais j'avais lu le livre des Chroniques avec ce sentiment que si j'arrivais à franchir les premiers chapitres qui ne sont que des généalogies sans m'endormir, ce serait un miracle. Et un jour, j'ai lu pendant mes vacances ce chapitre 4 et ces deux versets, ces deux, trois versets qui concernent Jaébeth et sa prière m'ont particulièrement marqué. Ça a vraiment bouleversé quelque chose en moi. Et peut-être que ça vous parlera aujourd'hui encore comme un encouragement dans votre relation avec le Seigneur, comme ça a pu l'être à un moment donné dans ma vie. Alors, je voudrais m'arrêter sur le contenu de cette prière, qui est vraiment une prière remarquable, sur le sens profond qu'elle apporte sur la vie d'un homme, son espérance, et le lien qui est révélé entre lui et son Dieu. Tant il est vrai que nos paroles dans les prières disent autant de nous que de notre relation à Dieu, de notre croyance, c'est-à-dire à l'idée que nous nous faisons de Dieu. Vous savez, quand on s'écoute les uns les autres prier, c'est très intéressant parce que, en fait, lorsqu'on écoute les prières de l'autre, eh bien, on a ce sentiment de découvrir aussi sa manière de construire et de penser sa relation avec Dieu. Alors, j'aimerais bien m'arrêter sur cette prière de Jaébeth qu'on trouve dans le deuxième livre des Chroniques. Mais avant d'aller plus loin, il y avait quelque chose qui m'a frappé cette semaine. C'est qu'en relisant cette prière, je me dis, oui, ça dit quelque chose de cet homme. On n'en sait rien d'autre. Il y a juste cette prière de deux lignes dans la Bible. Il n'est pas repris derrière, etc. Enfin, quelque part, mais ce n'est pas un héros de la foi. On ne le retrouve pas dans Hébreux 11. Mais il y a quelque chose de fort dans ce qu'il dit de sa relation avec Dieu. Mais avant d'aborder ça, j'aimerais peut-être relire cette phrase. C'est que la mère de Jaébeth dit « Je l'ai appelé Jaébeth parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Et j'ai pensé tout à coup qu'en fait, cette femme qui a donné ce nom, qui veut dire souffrance, vous imaginez appeler votre fils souffrance, Faut pas, hein, faut pas. Je dis ça à celles qui voudraient, qui ont un prénom à choisir, souffrance ou douleur. Et en même temps, j'ai réalisé qu'en fait, pour Dieu, chacun d'entre nous, nous sommes des enfants de souffrance. C'est-à-dire que quelque part, il nous a enfantés dans la douleur. Parce que lorsque Dieu a eu ce désir ardent, parce que c'est comme cela que parle Jésus, ce désir ardent de nous racheter, de nous ramener à lui, de nous tracer un chemin pour que nous puissions retrouver une relation avec lui, que nous puissions l'appeler Père, eh bien, il l'a fait au prix de la douleur que lui a causée le don de son fils à la croix et à Golgotha. Oh, parfois, on dit ces choses-là avec tellement de facilité. Oui, Dieu, le Père, a donné son fils afin que j'aie la vie éternelle. Mais dans quelle souffrance ? Dans quel arrachement ? C'est le prophète Ésaïe dont on dit, il vivait 500 ans avant la venue de Jésus, qu'il est pratiquement le cinquième évangile, tellement il parle de cette venue du Messie à venir. Il disait à Israël, quand Israël disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie !» Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, dit Dieu à Israël. Et dans ce passage, tout ce passage du chapitre 49, le prophète parle de l'amour de Dieu et de ce que cela lui a coûté. Et lorsqu'il parle de son amour pour Israël, c'est-à-dire pour son peuple, il lui dit « Je suis comme une femme ». Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait ? Est-ce que c'est possible ? Oh, ça peut être exceptionnellement possible. Mais en général, les femmes qui ont porté un enfant, qui l'ont nourri, qui l'ont aimé, ne peuvent pas oublier le fruit de leurs entrailles. Eh bien, Dieu a cet amour-là. On parle peu de la nature féminine de Dieu. On est dans une culture judéo-chrétienne où l'image de Dieu, c'est celle de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, un grand barbu, forcément homme. Mais dans l'Écriture et dans l'Ancien Testament, la nature de Dieu est évoquée comme une nature aussi féminine. Il a des entrailles de miséricorde, c'est-à-dire le mot qui est utilisé, c'est quasiment un utérus de miséricorde qui nous porte. Dieu a cet amour-là. Je ne t'oublierai pas et j'irai jusqu'au bout de cet amour-là. Doit-il me conduire à donner mon Fils unique sur la croix pour toi ? Alors, lorsque je lisais que dans ce passage, Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna de Jaébeth en disant « C'est celui que j'ai enfanté dans la douleur. » Ça me fait d'abord penser à l'amour de Dieu pour moi. Il m'a enfanté dans la douleur. Il a donné son fils dans la douleur la plus extrême, l'abaissement le plus total, afin que je puisse l'appeler Père. Est-ce que nous avons conscience d'être aimé à ce niveau-là d'amour par un père? Alors, dans ce passage, il y a deux versets où il est parlé de Jaébeth, qui est un homme. Il s'est appelé souffrance parce que sa mère avait beaucoup souffert en le mettant au monde, et toute sa vie, il va s'appeler souffrance et douleur. Alors je me dis, mais pourquoi est-ce que, au milieu de toute cette généalogie qui dure, mais une quantité invraisemblable de noms, de personnages, au milieu de cela, un tel engendra un tel qui engendra un tel qui engendra. Je vous assure que quand j'étais dans ce temps de vacances et que je lisais Chronique en me disant, il faut que je le lise fidèlement, toute la parole est parole de Dieu, il y a des moments où j'ai dû faire des pauses en me disant, ça va durer encore longtemps. Et tout à coup, au milieu, il y a cette phrase. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Il était plus aimé que les autres parce qu'il avait été enfanté dans la douleur, certes, mais il a invoqué Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce tout petit témoignage de vie? Une chose est sûre, c'est que ce témoignage, c'est une relation entre un homme et son Dieu. Et un homme qui ose prier Dieu et un Dieu qui écoute l'homme. C'est très étrange comme prière. Jaébeth, dit-il au chapitre 4, verset 10, invoqua le Dieu d'Israël et vous avez le texte de la prière. Il y a des fois, moi ça fait plus de presque 50 ans que je suis rentré dans une église pour écouter des gens prier. Et il y a des fois, il y a des prières à rallonge. Même là, j'ai tendance à m'endormir avant que la personne dise Amen. Et puis, il y a parfois des prières amusantes, des prières enfantines. J'aime beaucoup les prières des enfants. Parce qu'ils s'approchent de Dieu en toute simplicité. Il n'y a pas de quant à soi. Il n'y a pas de peur de paraître ou de que les autres me jugent. Non, les enfants, ils s'adressent à Dieu en toute simplicité, la simplicité de leur foi. Et puis, il est dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est tout. Alors, Jaébeth sort du lot dans toute cette généalogie de chroniques. Moi, je vous invite à relire cette prière, à vous arrêter. Les 9 premiers chapitres de ce livre, c'est une récitation d'un arbre généalogique. Plus de 500 noms différents. C'est mieux que de compter les moutons le soir pour s'endormir. Lisez les 10 premiers chapitres du premier livre des chroniques. Et puis au 44e nom, c'est une histoire. Avant que la litanie des noms recommence, on ne se souvient pas de Jaébeth à cause de ses grands espoirs, on ne se souvient pas d'un parcours de vie particulier. Et vous savez quoi? En 50 ans de vie dans l'Église, il y a des personnes qui ont traversé mon chemin de vie et qui n'étaient pas des personnes dont on se souvient aujourd'hui. Mais ce sont des personnes qui ont été importantes pour moi, parce qu'elles ont prié pour moi, parce qu'elles ont eu des gestes, des attitudes, de l'affection, de la tendresse, de la bienveillance. Quand j'étais dans le groupe de jeunes du Havre, tous les jeunes faisaient partie de l'église apostolique du Havre. Et puis la personne qui m'emmenait au culte a dit, bah, moi, à partir de la semaine prochaine, j'irai dans la petite église de Harfleur, à 5 km. Moyenne d'âge, 90 ans. J'y suis allé. Bon, j'étais le seul jeune. Au début, je ronchonnais un peu en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là, quoi? Tous les copains, les copines sont dans l'autre église. Ça chante bien. Il y a plein de guitares, des instruments, il y a de l'ambiance, il y a une bonne atmosphère. Puis moi, je suis là, on chante des vieux cantiques, foi et louange. Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de musique. J'ai été béni dans cet espace-là parce que les personnes âgées qui ont été là, comme j'étais le seul jeune, vous savez quoi l'avantage que j'avais sur les autres? J'étais l'unique objet de leur intercession et de leur prière. L'unique. Et je crois que leurs prières ont touché ma vie et m'ont amené à vivre des choses que bien d'autres n'ont pas eu la possibilité de vivre. Et je crois que voir Dieu comme étant celui dont nous sommes le seul objet d'amour, le principal objet d'amour, ce Père qui prend soin de moi, eh bien, c'est quelque chose aussi d'important. Alors, il portait un nom qui n'était pas un nom facile à porter, souffrance. Vous imaginez, dans la cour de récréation, il y a Ebets qui se faisait moquer par ses petits copains, qui l'appelait « Hé, souffrance ! Hé, douleur !» Ou sa maman, quand elle l'appelait à table le soir, en disant « Souffrance, viens manger !» Pas facile de porter parfois une identité qui vient de si loin. Puis en même temps, je me disais, comme je vous le disais en préambule, est-ce que pour lui, ça n'a pas été quelque chose d'important que son nom lui rappelle la souffrance que ça avait causé à sa mère le fait de venir au monde, que ça avait coûté à sa mère. Hein? C'est ma femme qui aime bien une vieille chanson de Marie Laforêt où un enfant vient demander à sa maman « Tu veux que je fasse la vaisselle? Donne-moi 10 francs. » C'est une vieille chanson, c'est encore en francs, hein, excusez-moi. Mais voilà. Et puis la maman répond en citant toutes les étapes de sa vie où elle s'est donnée pour son enfant, ce que ça lui a coûté comme souffrance au moment de la naissance. Et puis ensuite, le travail qu'elle a dû prendre pour pouvoir subvenir à ses besoins, etc. Et à la fin, elle dit simplement ceci. Et pour toi, la facture, c'est cadeau. Parce que c'est le fruit de mon amour. Savoir que la maman de Jahébetz lui a donné ce nom-là, c'est aussi lui dire, tu sais, j'ai souffert, mais t'es le plus beau cadeau que j'ai eu. Alors, de quelle était la nature de cette souffrance? Est-ce que c'est la difficulté de l'accouchement? On est quand même quelques centaines d'années avant que la péridurale n'existe. Est-ce que c'est l'absence ou le rejet du père? Est-ce que c'est la souffrance qu'a peut-être dû subir sa maman? On ne sait pas. Il n'y a rien qui est dit ça, sur cela. Mais Jahébetz a dû grandir avec cette identité, ce rappel permanent. Au temps biblique, le nom équivalait à une prophétie sur l'avenir de l'enfant. Jacob, qui est devenu Israël, mais Jacob, ça veut dire l'usurpateur, le menteur, le tricheur. Il est devenu Israël. Naomi et Elimelech ont appelé leur fils, vous savez, ce livre de Ruth que j'affectionne tellement, ils ont appelé leur fils, alors un peu comme Jahébetz. Vous savez, vous vous rappelez, le premier s'appelait Malon et l'autre Kilion, ça veut dire maladif et souffreteux en hébreu. Il y a mieux. Hein? Et pourtant, quelle que soit la raison de la souffrance dont il a été peut-être à l'origine ou qui marquait la vie de sa mère, eh bien cet homme a triomphé un jour de ce handicap. Et c'est ce que semble dire le texte quand il déclare « Jahébetz était le plus considéré de tous ses frères ». Ah, j'aime cette pensée que quel que soit le nom que nous portions et que la vie a déposé sur nous, et parfois, il peut y avoir des noms et des histoires de vie douloureux, douloureuses. Eh bien, quoi qu'il soit, Dieu nous dit qu'il n'y a pas de fatalité. Et qu'en lui, quelle que soit l'identité que j'ai, mon parcours de vie, il est possible d'être le plus considéré des hommes et des femmes. Parce que le regard bienveillant de Dieu est sur moi. Alors parfois, quand j'accompagne des personnes qui sont en souffrance et qui sont dans l'abattement, il me semble qu'il y a là quelque chose qui peut guérir nos âmes et nous dire, écoute, quel que soit le chemin que ta vie a emprunté, je peux te donner de vivre une vie nouvelle en moi, avoir un regard nouveau sur toi. Alors, vous connaissez tous ce verset de Corinthiens, de Paul aux Corinthiens, qui dit « Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. » Ah, qu'est-ce que c'est facile à dire, ça. C'est beau, c'est merveilleux. Et quand vous avez un chrétien, un frère, une sœur qui vous dit ça alors que vous êtes au fond du trou, vous faites un simulacre de sourire en disant « Merci ». Et dans le plus profond de votre cœur, il dit, mais si tu savais combien pour moi c'est difficile d'y croire aujourd'hui. Je suis tellement dans la souffrance. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il dit cela, il le dit en rajoutant cette pensée. Ce n'est pas simplement un motto, un mantra répété. Oui, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont... Non, non. Cela peut venir de Dieu dans ta vie. Dieu peut guérir. Il y a une résilience qui existait dans la pensée de Dieu avant Boris Cyrulnik, pour ceux qui connaissent ce psychiatre. Hein? Dieu disait, voilà, je peux en toi accomplir une œuvre de vie si tu me laisses entrer dans ta vie, entrer en relation avec toi. L'histoire de Jaébès nous décrit un merveilleux miracle. Il a fait ce que vous pouvez faire aussi. Il a changé sa destinée. Il est sorti de l'identité de quelqu'un qui n'était que souffrance pour devenir celui qui était le plus considéré de ses frères. Dans la Bible, les noms ont une signification, je le disais. Eh bien, Jacob, c'était tricheur. Abraham, ça voulait dire père élevé, c'est-à-dire un père très, très bien. Et Dieu a changé son nom en lui disant, tu seras père de plusieurs nations. Waouh ! Le nom de Moïse veut dire qu'il a été retiré des eaux. Chaque fois qu'on l'appelait, Moïse se souvenait que sa vie avait été préservée lorsque Dieu l'avait retiré des eaux et confié à la fille de Pharaon. Josué, ça veut dire sauveur. C'est lui qui a fait rentrer Israël dans la terre promise. Il était véritablement sauveur. Et Jaébetz, même si sa mère l'enfanta dans la tristesse, est-ce qu'il était boiteux de naissance, affligé d'une faiblesse ou d'une maladie, on ne sait pas. Mais il a changé sa destinée en rentrant dans une relation avec son Dieu qui a modifié sa trajectoire. Moi, dans mon imagination, moi, je vois cet homme convaincu que sa destinée était toute tracée. Faiblesse, maladie, douleur, confiné et limité, persuadé que telle serait sa destinée, parce que même son nom l'indiquait. Et peut-être que, au milieu de nous, il y en a qui sont convaincus que leur destinée est toute tracée. À cause de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes, de ce que nous portons. Qu'est-ce qui se peut se dire, ce qui s'est passé dans la tête de Jaébès pour prier, pour s'adresser à Dieu de cette manière-là? Sa prière, en fait, elle est peut-être un modèle de prière pour nous. Là, il y a quatre volets dans cette prière. Il a d'abord dit « si tu me bénis ». C'est-à-dire, quelque part, il s'est adressé à Dieu comme celui qui peut le bénir. Moi, j'aime bien lire ce texte-là quand je vois Jean-Jacques au fond de la salle. Il m'a appris quelque chose en hébreu. Il lui parlait pas en hébreu, il sera pas forcément... Mais il disait, moi, je veux la baraka dans ma vie. Et puis, en fait, en relisant le texte, je me suis rendu compte que baraka, ça vient de l'hébreu, ça veut dire bénédiction. C'est pas de la chance. Hein ? On est d'accord, Jean-Jacques ? D'accord. Mais à chaque fois que je lis cette pensée-là, je pense à lui. Et puis on avait une discussion sur est-ce qu'on veut de la chance ou est-ce qu'on veut être béni. Pour Jaébet, c'était « si tu me bénis ». Non pas parce qu'il y a un doute, le « si », ce n'est pas un doute qui est mentionné. C'est peut-être que si. Non, c'est « si c'est cela qui arrive dans ma vie, alors, si tu me bénis », etc. Encore faut-il être dans une attitude de foi vis-à-vis de celui qui est le rétributeur de notre foi, c'est-à-dire celui qui peut répondre à notre foi. Je crois et Dieu vient à ma rencontre et accomplit sa volonté dans ma vie. Alors, Jaébès, il a dit... Comme dans le livre des Proverbes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ouais, parfois on a des chagrins quand même. Hein. Mais si c'est la bénédiction qui enrichit de l'Éternel, et non pas les choses de ce monde, alors il y a intérêt à aller vers Dieu et dire, et si tu me faisais du bien ? Bénir, voilà, on va utiliser des mots simples. Bénir, c'est vouloir du bien à l'autre. Est-ce que Dieu me veut du bien ? Il y a des fois, on peut traverser des épreuves, qui nous en font douter. Et puis en même temps, si j'ai cette foi en Dieu, alors je peux découvrir un Dieu qui n'a pas d'autre objectif que de me faire du bien, au point de me donner son Fils, d'accepter de s'en séparer, de le laisser monter sur la croix. Jaébès a dû se souvenir de son ancêtre où Dieu disait à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que être béni, c'est devenir soi-même une bénédiction pour les autres. Et Dieu sait si parfois l'être humain peut être tout sauf une source de bénédiction pour l'autre, pour les autres. Alors, là, Yahébet, c'est dans cette attitude, si tu me bénis. Voilà ce qui est important pour moi. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous bénir? Est-ce que en rentrant chez vous, dans le secret de votre chambre, vous pouvez dire à Dieu, bien Seigneur, j'ose te demander de me bénir, de me faire du bien. Je crois que ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que tu peux apporter à ma vie, à mon cœur, à mon âme. Et rien de mal à prier pour que Dieu vous bénisse, dans le sens d'une bénédiction. Alors, je me souviens toujours de la même conversation avec cet ami qui parlait de la baraka. Si je demande de gagner le tiercé, ou j'ai entendu à la radio en voiture qu'un homme avait gagné 1 million d'euros au loto. Il part en voyage après avoir rejoué une grille, et pendant qu'il est en voyage, il apprend qu'il a à nouveau gagné 1 million. Je dis, bon, il y en a. Étonnant. Est-ce que je vais demander de gagner 1 million pour moi, pour mes besoins? Mais si je dis, Seigneur, donne-moi de recevoir 1 000 euros parce que les missionnaires en ont besoin pour annoncer ton évangile. Là, c'est une bénédiction. On peut se dire, tiens, elle peut rentrer dans la pensée. Elle peut. Je ne sais pas qu'elle sera, mais... Quelles sont les raisons qui motivent ma demande de bénédiction? Si vous voulez de la sagesse pour aider les gens, alors priez pour de la sagesse. Parce qu'il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, est-ce que nous sommes prêts à demander, à recevoir de la sagesse? Des choses dont on a besoin et qui sont utiles pour les autres. Si tout ce que vous voulez, c'est vous en mettre plein la vue aux autres, alors, vous ne serez pas exaucé. Mais si ce que vous voulez, c'est plus de capacité afin de mieux servir les autres, alors demandez à Dieu que votre vie soit une bénédiction. Est-ce que vous avez demandé à Dieu que votre vie soit une bénédiction pour les autres? Yahébet s'était certainement souvenu de son ancêtre Jacob qui a lutté avec Dieu. Quand Dieu lui a dit « Laisse-moi aller », vous savez, c'est ce combat entre Jacob, un des ancêtres de Yahébet, qui s'est battu toute une nuit avec un ange, et cet ange lui dit « Laisse-moi aller ». Jacob lui dit « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni ». C'est-à-dire, quelque part, il s'est battu jusqu'au bout de la nuit, un peu comme la chef de M. Sauvignon, à la fin, était différente. Hein. Et il a dit « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni ». C'est ça l'essentiel pour moi. C'est que la bénédiction de Dieu soit sur ma vie. Et c'est à ce moment-là que Jacob est entré dans le pays de la promesse, qu'il a été la pierre angulaire, quelque part, des promesses de Dieu, de l'accomplissement des promesses de Dieu à Abraham, et que la terre d'Israël est devenue la terre de promesses pour ce peuple. C'est de Jacob et de ses descendants que le Messie est venu dans le monde. Hein? Dieu veut nous bénir, mais parfois il faut lutter comme Jacob. Est-ce que je suis prêt aussi à me battre pour que la bénédiction de Dieu soit sur ma vie, sur celle de ceux qui m'entourent, sur ce monde? Le problème, c'est que l'indifférence s'est emparée du peuple de Dieu et que nous ne cherchons pas véritablement la bénédiction de Dieu, bien souvent. Nous avons tout ce qu'il nous faut matériellement et nous avons perdu la vision des bénédictions spirituelles, de ce qui est véritablement important. Notre intérêt des choses de Dieu est éphémère. On veut grappiller des choses. Mais est-ce qu'on veut véritablement la bénédiction de Dieu sur nos vies, et sur ce monde, et sur l'Église? Étends mes limites et agrandis mon territoire, dit. Si vraiment tu me bénis, alors tu agrandiras mon territoire, dit Yahébet. Ah, agrandir son territoire. Alors, ce n'est pas agrandir son jardin. Moi, j'ai un chat qui est arrivé avec ses propriétaires juste dans la maison mitoyenne. Et la maman des nouveaux propriétaires disait, vous savez, mes enfants ont eu l'habitude jusqu'à présent d'avoir 3 000, 5 000 mètres carrés de jardin. Donc. Et dans la tête de leur chat, c'est resté. Donc il a annexé mon jardin, il a étendu son territoire, il est rentré dans la maison, il s'installe sur les coussins et tout. Il a tout annexé, pas seulement le jardin, la maison y compris. On prenait l'apéritif avec ses propriétaires, on leur a expliqué, on se dit, oh, c'est embêtant. Non, non, on est très heureux qu'il soit là. Il a étendu son territoire. Est-ce que nous ne pouvons pas, nous aussi, considérer que ce que Dieu veut pour notre vie, ce n'est pas le côté restreint dont nous avons conscience de ce que nous sommes? Je ne parle pas des biens matériels, mais de ce que nous sommes profondément. Est-ce que Dieu ne veut pas élargir nos limites? C'est un prophète qui est toujours Ésaïe qui disait « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. » Et quelque part, nous avons une telle vision restreinte de ce que nous sommes, sans vouloir que la bénédiction de Dieu élargisse l'espace de notre vie, ce que nous sommes. Demandez à Dieu qu'il vous accorde des dons spirituels qui seront utiles dans votre témoignage en ce monde. Demandez à Dieu de devenir un témoin simple, vrai, là où il vous place. Demandez à Dieu qu'il vous donne de la passion pour son service, ainsi que les outils qui sont nécessaires pour le servir. Dieu cherche des instruments. Est-ce qu'il faudra qu'il passe à côté de vous, à côté de moi, et ne se serve pas de nous? Alors, Yabetz a dit cette prière. Élargis, élargis, étends mes limites. Il y a des fois, nous avons une telle croyance sur les limites qui sont en nous, que ce sont ces croyances-là qui dominent. Et c'est ce qui empêche l'œuvre de Dieu s'accomplir en nous. Ce n'est pas que nous sommes incapables. C'est que nous croyons l'être et que nous l'acceptons. Seigneur, étends l'espace, étends mes limites pour que tu accomplisses ce qui est possible dans ma vie. Les plus grands héros de Dieu n'étaient pas à l'origine des hommes ou des femmes qui étaient exceptionnels. Ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté que Dieu étende leurs limites. Vous savez que Moïse, qui a... Alors j'ai découvert ça, moi, en faisant mes formations, parce que mon professeur d'hébreu a décliné un mot où Moïse, devant le buisson ardent, Dieu lui dit va à la rencontre de Pharaon, libère mon peuple, etc. Et vous avez Moïse qui dit Mais je ne sais pas parler. Et en fait, en hébreu, ça veut dire je suis bègue. Je suis bègue. Ça, c'est mes limites. T'inquiète pas, je te donnerai ton frère Aaron pour qu'il parle à ta place. Mais vas-y et parle à Pharaon. Ouais, je suis bègue. Et combien de fois nous regardons et nous acceptons les croyances qui limitent ce que nous sommes, alors que Dieu veut simplement que nous devenions. Que nous devenions celui et celle qu'il a créé. Seigneur, quand dans les évangiles, au chapitre 16 de l'évangile de Marc, les disciples sont envoyés par Jésus, il est dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils n'étaient pas plus costauds qu'avant, ils n'étaient pas meilleurs, simplement ils sont allés et ils sont devenus les porteurs de l'évangile, de la bonne nouvelle. C'était la main du Seigneur qui était avec eux. Et des hommes et des femmes se sont convertis tout simplement parce qu'ils ont accepté que les limites... Je ne suis qu'un pécheur. Il y avait combien de pécheurs dans les douze apôtres? Moi, je sais pêcher du poisson, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que j'aille aller faire sur les routes et annoncer une bonne nouvelle? Il y a des synagogues, il y a des rabbins pour ça. La main de l'Éternel, la main de Dieu était avec eux. Si tu... étends mes limites. Si ta main est avec moi, et c'est là la différence, c'est pas par leur propre force qu'ils sont allés, les disciples de Jésus. Ce n'est pas par sa propre force, certainement, que Yahébetz voulait aller et vivre sa vie. Mais si ta main est avec moi, est-ce que je peux demander à Dieu que sa main soit avec moi? C'est hier, je réfléchissais, parce que quand je prêche, quand je prépare une prédication, je la porte en moi pendant des heures, des jours auparavant. Et puis j'ai fait quelque chose qui est le seul endroit, un petit peu, je suis un peu comme les requins, vous savez, j'arrête jamais de nager. Et j'ai l'impression que si je ne fais pas quelque chose, je vais mourir. Hein. Et donc, il y a un seul moment dans ma vie quotidienne où j'arrête tout. Vous savez où c'est ? Non ? Vous savez pas ? Oui, toi, tu en as moins besoin que moi. C'est chez le coiffeur. Chez le coiffeur, je suis assis sur le fauteuil, puis là, bah, vous êtes obligés d'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure. Et j'étais là, et immobile, me laissant coiffer. Et je pensais à cela. Seigneur, bénis-moi. C'est ce que dit Beth. Puis je réfléchissais à ça et je disais, mais c'est étonnant ça, d'être dans cette attitude, de dire, mais bénis-moi, demander à Dieu de me bénir pour devenir une bénédiction pour les autres. Puis j'étais là, j'ouvre les yeux, parce que de temps en temps, je suis souvent les yeux fermés. Je ne sais pas les dames comment vous faites, hein, parce que vous restez beaucoup plus longtemps que nous, mais moi, en tout cas, je ferme les yeux, puis je médite, et puis j'étais là, j'ouvre les yeux, et je pensais, bénis-moi afin que je sois une bénédiction pour les autres. Et j'ouvre les yeux en me disant, mais comment je peux être une bénédiction maintenant pour les autres ? J'ouvre les yeux, et vous savez qui je vois ? Ma coiffeuse. Ça fait deux, trois fois qu'elle me coiffe, et j'étais là, j'ai dit, ah, est-ce que je peux être une bénédiction pour elle ? Et vous savez quoi ? Là, tout à coup, je me suis dit, et si je priais pour elle ? Sans rien lui dire, mais simplement prier pour elle en disant, Seigneur, rencontre cette femme, fais-lui du bien, qu'elle puisse vivre quelque chose dans sa vie, là aussi, là où elle a des besoins. Et j'ai prié pour cette femme, elle ne l'a pas su, hein. Vous ne lui direz pas. Hein. Mais j'ai prié pour cette femme, tout à coup, je me suis dit, mais c'est du très concret, cette prière de Jaïbet. Si ta main est avec moi, est-ce que je peux aussi faire que ceux qui m'entourent, si la main de Dieu est avec moi, voilà, je puisse véritablement vivre une expérience avec Dieu. Finalement, Jaïbet terminera sa prière en disant, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur. Ah, et de la douleur, en fait, dans la traduction originale, c'est si tu me préserves, préserve-moi du mal en sorte que je ne sois pas dans la douleur. Il y a une traduction moderne anglaise qui dit en sorte que je ne sois pas cause de douleur. En fait, il y a un jeu de mots entre douleur. Il a été cause de douleur, Jaïbet, par rapport à sa mère. Il ne veut plus être cause de douleur. Est-ce que nous pouvons être les uns et les autres des hommes et des femmes qui ne soient pas cause de douleur pour l'autre, mais cause de bénédiction? Le péché a été source de douleur dans le monde. Il a fait souffrir celui qui commet le péché. Il fait souffrir ceux qui contre qui le péché a été commis. Mais il y a une chose qui est certaine. Le péché, ce qui règne dans ce monde, par-dessus tout, fait souffrir Dieu. Dans le livre de la Genèse, il est dit que l'Éternel vit la méchanceté des hommes et elle était grande sur la terre. Écoute, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et il y a un verset là, au verset 5, chapitre 6, verset 5, qui est terrible. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Il eut de la souffrance dans son cœur à cause de ce péché. Pas l'acte du péché, mais la séparation que cela avait engendrée entre lui et l'homme. Quand je dis l'homme, c'est sa création, homme et femme. Alors, si nous avons oublié que le péché fait souffrir, il faut revenir à la croix où Jésus supporte la souffrance qu'impose le péché. Depuis la cellule malodorante, en passant par les coups de fouet, la couronne d'épines, pour finir sur la crucifixion. Oui, le péché fait souffrir. Mais la prière de Jaïbet, c'est magnifique. Parce que c'est une parole de foi. Alors, est-ce qu'on peut réafficher la prière de Jaïbet ? Voilà, elle est là. Et puis, moi, je vais vous proposer une chose. Il y a trois phrases qui se terminent par cette conclusion. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parce que ce qu'il a demandé était juste. Oh, si j'osais. si j'osais, je vous demanderais de lire cette prière avec moi. Alors, je ne vous oblige pas. Mais je vais la lire. Et vous la lisez à haute voix, si vous le voulez, ou dans le silence de vos cœurs, afin que nous puissions vivre ce qui termine cette prière. Si tu me bénissais abondamment, et si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur. Et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Amen.